Le parcours sonore cherche à raconter le lieu, l'histoire de cette prison de Guingamp. Et nous avons tenté d'y apporter, de réintroduire l'humain en y ajoutant les fantômes, les voix qui nous manquaient pour bien la raconter. Et c'est une tentative, bien entendu, à côté d'autres tentatives pour raconter, pour conjurer l'oubli, parce que finalement, nous avions fini par oublier qu'il y avait, pendant presque un siècle, des hommes et des femmes qui avaient vécu là.
Julien Simon, pouvez-vous vous présenter ?
Alors, je suis un homme du théâtre, je suis un comédien, mais aussi un auteur dramatique. C'est-à-dire que très tôt, en exerçant le métier de comédien, j'ai voulu aussi écrire pour le théâtre et pour la radio. Et j'ai commencé par écrire une pièce de théâtre qui s'appelle « Comme un ange après tant de misère », qui a eu un très très grand succès et qui est une pièce de théâtre écrite à partir de lettres d'un soldat de la Révolution, un soldat de Cavan. Cette pièce a fait l'objet d'une diffusion sur France Culture. Il y a eu aussi un film et le texte a été publié. Mais c'est pour moi le début de mon travail sur la mémoire. Je voulais raconter des histoires au mieux, au plus près de la vérité, et raconter des histoires qui souvent n'avaient pas été racontées ou qui avait été mal raconté. Alors, moi, j'ai fait mes études à Guingamp. Et ce lieu était un lieu un peu mystérieux. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces hauts murs ? C'est un peu ce que je ressens auprès du public. Il y avait vraiment une curiosité, quoi. Une curiosité de savoir qu'est-ce qui se cache, finalement, derrière ces pierres ? Alors, on savait que c'était une prison. À l'origine de ce projet, il y a Céline Larrière, qui est la directrice du pôle culture patrimoine de la ville de Guingamp, et aussi la directrice du théâtre du Champorois, qui connaissait mes travaux et qui m'a demandé de réfléchir et d'échanger avec elle pour essayer de définir ce projet des parcours sonores. Et donc, on a commencé par une visite. Je me rappelle, il faisait un froid de canard. J'étais pas très chaudement vêtu. Je n'ai ressenti absolument rien devant toutes ces pierres. Pour être franc, je suis sorti de la prison sans avoir ni la moindre émotion, ni le moindre désir, ni la moindre envie de quoi que ce soit. Ce n'est qu'après, toujours à l'initiative de Céline, nous avons réfléchi pendant de longs mois pour savoir qu'est-ce qu'un artiste pourrait faire pour, avec ses langages, avec ses écritures, avec ses moyens, raconter au mieux ce lieu qui était non pas dans l'état qui est le sien aujourd'hui, mais c'était pratiquement une friche, un amas de pierres. C'était assez sinistre. Et une prison, c'est sinistre. Et petit à petit, s'est dessiné le projet. Mais c'est vraiment été un échange avec aussi des élus de Guingamp, mais surtout Céline. On a mis au point cette... Tiens, ça pourrait être ça.
Ça pourrait être ça, et pas tant les murs, finalement, j'ai envie de dire, que les personnes.
Oui, c'est une chose qui m'a frappé très tôt, c'est que pour raconter un lieu, il est toujours intéressant de raconter la vie des hommes et des femmes qui ont peuplé ce lieu. L'architecture, c'est magnifique, elle est en plus magnifique, mais moi, je... pense, et c'est là que l'homme de théâtre peut intervenir, c'est de d'essayer de réintroduire un peu l'humain, c'est-à-dire la vie de ces hommes et de ces femmes, dans le lieu. Alors comment faire? C'est pas simple. Nous avons imaginé ce parcours sonore. Au tout début, j'ai cherché quelques documents et je me suis rendu compte qu'il y en avait finalement assez peu pour raconter la prison. Et je trouvais que tout ça était très très bien mince. Pas de témoignages, pas de photographies ou peu de photographies, pas d'écriture, j'ai souvent dit, mais bon sang, si le marquis de Sade avait été enfermé là, ça aurait été beaucoup plus simple. Ou alors, vous voyez, mais là, il n'y a aucune trace. Et je suis parti tout simplement en quête des petites choses, des petites traces, et je suis allé aux archives départementales de Saint-Brieuc, où j'ai eu la surprise de découvrir que finalement, les petites traces étaient très très abondantes et très très riches. Ne serait-ce que le registre des écrous, d'entrée des écrous, eh bien on a tout. On a tout ce qu'un homme de théâtre rêve. C'est-à-dire on a la description, on a même les costumes, on a la filiation, on a bien sûr le délit, mais finalement, tous les personnages étaient là. Il n'y avait plus qu'à tirer sur la ficelle pour les faire revivre et tenter de restaurer les voix de ces hommes et de ces femmes pour, premièrement, leur donner la parole, parce que ce sont quand même des exclus, des miséreux, et ces hommes et ces femmes et ces enfants n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Donc là aussi, c'est une façon de rendre justice, finalement, au lieu. Toutes les voix proviennent de la prison. Ça, c'est très, très important. Les voix viennent de la prison, et j'ai souhaité que ce soit ces personnes qui parlent dans ces murs où elles avaient vécu. Donc là, il y a eu recours à la fiction. Entre-temps, il y a eu des ateliers d'écriture aussi, avec des gens de Guingamp qui ont été associés, si vous voulez, au processus, au mouvement. Je trouve que c'est très, très important, ça, dans un acte de mémoire. Moi, je dis des actes de mémoire. Je trouve très, très important qu'il y ait un mouvement qui associe, je dirais, les gens qui sont, en premier lieu, concernés par ce travail. Donc, nous sommes allés ensemble aux archives, nous avons commencé à tirer sur les fils, et ensuite, et ça c'était un enjeu assez important, c'est que les enregistrements soient réalisés, les interprètes soient les habitants de la région. 70 interprètes, c'est pratiquement hollywoodien déjà, hein. Nous sommes dans Hollywood là, pratiquement 70 interprètes, et j'avoue qu'il y a des surprises tout à fait étonnantes. Chanter l'international avec des Espagnols, nous étions une dizaine, je crois que les noms des Espagnols qui étaient là, comme l'international, a résonné sur ces pierres d'une manière tout à fait différente. Le lieu et les paroles, moi j'y crois beaucoup. L'association, comment ça résonne, comment ça se frotte. Et c'est un peu ça le parcours parole. Et il se passe des choses là, à ce moment-là. Quand les mots frottent sur les pierres comme ça, ça résonne. Il y a une phrase qui m'a beaucoup guidé au début de ce travail, c'est celle du prix Nobel de littérature, dont j'oublie le nom maintenant, puisque c'est un travail sur la mémoire, il faut oublier, qui dit « Les lieux gardent toujours de légères empreintes des personnes qui les ont habitées ». C'est dans Dora Broder de Modiano que je viens de retrouver. Voilà. Nous aurions pu aller beaucoup plus loin, nous aurions pu écrire 100 petites histoires qui, chacune aurait pu faire pratiquement une pièce de théâtre. Chacune est chacune de ces vies minuscules extrêmement riches à tout point de vue. Alors oui, ça a pris du temps, parce qu'il faut faire travailler un peu ces gens qui n'ont pas l'habitude du micro. Il y a des techniques, et puis c'est vrai, c'est un long travail, mais il faut trouver les interprètes. Vous savez, pour trouver un Russe, ou pour trouver un Chinois, parce qu'il y a des Chinois, c'est pas facile, c'est pas facile. Et donc, on les a trouvés. Le russe n'est pas tout à fait russe, mais il parle très bien russe, il a été élevé en russe. En réalité, il est géorgien. Et donc, il a fait ce travail aussi. J'ajoute que c'est un travail sur les langues et les accents. Je trouve qu'il y a la langue bretonne. La plupart de ces gens pensent en breton, ils parlent en français. Il y a la langue de l'administration, il y a la langue judiciaire, il y a la langue du pouvoir, il y a la langue de l'armée. Il y a toutes ces langues étrangères. Quelquefois, je me disais, mais c'est Babel. Il y a un letton, un marin letton, par exemple, qui se retrouve emprisonné là. Mais c'est magnifique. J'oubliais, évidemment, de parler de la langue de l'Église, puisqu'elle est extrêmement présente là. Donc, vous voyez, dans ce lieu clos, dans cette bulle, il y a finalement toutes ces langues, et je trouve que ces langues et le silence aussi racontent l'enfermement. Et je trouve ça particulièrement passionnant pour un homme de théâtre comme je le suis aussi, de travailler à la fois sur la langue, les accents, le silence. Et le chant, bien entendu, j'avais oublié. Et tout de suite, je suis allé voir Yfik Troidec, Jan van Schemener et Annie Ebrel, parce que je savais qu'à côté des archives de l'administration pénitentiaire, à côté des journaux de l'époque qui nous amènent un autre regard, il y avait cette mine d'or que sont les Guerriou, qui sont un peu tout ça à la fois des journaux, des petites dramaturgies, du chant, etc. C'est vraiment puissant, je trouve, ces Guerriou. Et elle raconte, évidemment, la misère humaine et la vie miséreuse de la plupart de ces gens. Et bien évidemment, je me suis tourné vers ces amis qui ont chanté, qui ont retrouvé, je dirais, ce qui se disait de l'autre côté des murs.
Et ensuite, donc, quand les parcours sonores ont été déployés dans la prison, avez-vous eu des retours? Avez-vous échangé?
J'ai eu quelques retours. Je crois qu'ils sont un peu surpris de voir qu'on puisse comme cela convoquer quelques fantômes. Mais ça, c'est la grande richesse du théâtre. Les vivants peuvent parler avec les morts. Donc, ça surprend un peu. Mais les gens sont agréablement surpris. On a tout fait, justement, pour que ce soit ouvert à tout public. Et que chaque séquence soit un peu comme une chanson, si vous voulez, 2 minutes. Alors, on ne peut pas tout dire en 2 minutes, mais surtout sur des sujets comme, je prends l'infanticide, par exemple, il est évidemment présent dans tout ce travail, mais on évoque les choses. Et les gens, il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est assez triste. Ben oui, mais que voulez-vous, cette histoire est une histoire sombre. Je vais te dire pourquoi j'ai choisi ces deux. Parce que là, on est dans la fiction. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer cela, mais sur la tablette, c'est bien signifié au spectateur ce qui est authentique et ce qui est de la fiction. Ça, ce n'était pas simple à résoudre, parce que sur un travail sonore, on ne peut pas distinguer les choses. Alors moi, j'ai choisi deux interprétations qui sont, je trouve, très très belles. Elles sont la pure fiction. Hein. Le marin letton, c'est un marin que j'ai trouvé son entrée. Il a été arrêté au port du Légué parce qu'il a pris une cuite et il a cassé la gueule aux flics. Il a passé 6 mois là. Bon. Et donc, je le fais cohabiter avec un breton qui n'a jamais vu de letton. Et Je vois aussi que sur le registre d'écrou, c'est mis qu'il était protestant. Donc, il y a une mine d'or, quoi. Et je trouve que l'interprétation est très, très belle. Et c'est, je dirais, un texte plus poétique. Et j'ai privilégié les textes plus poétiques, là aussi. Et le premier, c'est Annie Ebrel. Annie Ebrel, qui est une fabuleuse chanteuse qui fait une comptine. C'est très, très beau ce qu'est fait là. Donc, voilà les raisons pour lesquelles j'ai choisi ces deux textes.